Il manie l'idée, la réflexion, la persuasion, le silence. Mario Dumont. Informé, cultivé, rigoureux. Il n'est jamais à court d'arguments. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre.
Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio, bonne fin d'après-midi. Alors, en direct présentement à l'Assemblée nationale à 7h-ci, depuis environ 15h, c'est le discours inaugural, discours d'ouverture du premier ministre, M. Legault. En fait, ça a été précédé par, il y a toujours cette courte allocution un peu plus symbolique du lieutenant-gouverneur, parce que ça fait partie de la tradition. Et ensuite, c'est le premier ministre qui prend la parole. Discours qui est généralement assez long, qui peut durer jusqu'à une heure, même des fois dépasser ça, à l'intérieur duquel le premier ministre présente ce qu'il entend faire pour son mandat, quel mandat il a donné à ses ministres, quelle demande il a fait à ses ministres, qu'est-ce qu'il veut voir comme résultat. Alors, parler très tôt dans son discours de changement climatique, là, veut que le Québec, même si le Québec est déjà un leader selon lui, émet 50% moins de GES que les autres provinces états américains, c'est ce qu'il a mentionné, mais veut qu'on les réduise encore et veut combiner donc l'atteinte de nos cibles de gaz à effet de serre avec la croissance économique, parce qu'il veut toujours faire le rattrapage de richesse avec l'Ontario. Promis, bon, sur d'autres sujets, une place en garderie pour chaque enfant, parler d'éducation aussi. Mais justement, il est en train de parler d'éducation pour vous faire vivre ça, sentir ça en direct. On va aller écouter, donc, au Salon Bleu, le premier ministre François Legault.
Pour nos enfants. L'autre grand chantier, toujours en éducation, c'est de rénover nos écoles. On a commencé, on a doublé le budget dans le dernier mandat, mais il reste encore énormément de travail à faire. Il faut rénover nos écoles. Il faut construire avec notre nouveau modèle de belles écoles. Il faut revoir aussi nos cours d'école. Je sais qu'on a commencé à le faire. Et l'autre chose qu'on doit faire, je suis toujours en éducation, c'est la formation professionnelle. Je pense entre autres à la construction. On s'est donné comme objectif d'augmenter de 30 000 le nombre de diplômés en formation professionnelle qui était prévu pour être diplômé durant le prochain mandat. Donc, Monsieur le ministre de l'Éducation, vous avez un grand chantier aussi de ce côté-là. Pour ce qui est de l'enseignement supérieur, là aussi, on a des emplois stratégiques à combler. Commençons par les emplois dans le secteur public. J'ai parlé des enseignants. Évidemment, on se parle des infirmières, des éducatrices en service de garde, mais aussi dans le secteur privé, des emplois stratégiques, là, entre autres en technologie de l'information, en génie. Donc, il faut inciter plus de jeunes à s'inscrire. On a déjà mis des bourses, 1 500 par session au cégep, 2 500 par session à l'université. Donc, message aux jeunes, profitez-en, allez-y, on a besoin de vous autres. L'autre chose qu'on doit faire...
Ah voilà, ça vous donne le ton. Donc, François Legault qui va repasser comme ça, secteur par secteur, ce qu'il attend de ses ministres, ce qu'il attend finalement de son gouvernement sur l'espace d'un mandat. Dites-vous bien que, ben, intéressant pour nous, parce qu'il nous donne vraiment le programme d'action du gouvernement. Dites-vous aussi que l'opposition prend des notes, parce que pour l'opposition, ben, c'est... Ce qu'il faudra, ce sur quoi il faudra poser des questions, là, dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Monsieur le premier ministre, vous aviez promis de faire ceci, d'atteindre cet objectif-là, de régler ce problème-là. Et puis, où en est-on? Est-ce qu'on avance? Est-ce qu'on recule? Est-ce que votre ministre a fait le travail qui était, que vous attendiez de lui, etc.? Et c'est comme ça qu'on l'opposition, finalement, demande des comptes au gouvernement, s'assure que le gouvernement, livre la marchandise. Donc, c'est pour faire un petit rappel de comment ça se commence une session parlementaire. La première journée, ce qui était hier, on a une seule procédure assez simple. On élit le président. Dans ce cas-ci, c'était la présidente de l'Assemblée nationale. Ensuite, quelques mots du nouveau président élu et des bonnes chances. Tous les chefs de parti vont souhaiter bonne chance au nouveau président, s'exprimer un peu sur ce qu'on attend de la législature, mais plus en termes de procédure, de travail du président. Comment, en fait, tout le monde dit, ah, cette fois-ci, là, on va être constructif, on va collaborer, on va faut pas s'insulter. Ça commence toujours comme ça. Ça commence toujours dans des pluies de bonnes intentions. Puis finalement, après 4-5 périodes de questions, ils sont tous oubliés ça. C'est tout ça. Toujours comme ça que ça finit. Donc ça, c'est la première journée. La deuxième journée, c'est le discours inaugural. Donc c'est vraiment le premier ministre qui énonce ses grandes orientations. Il y aura réplique après de l'opposition. Et ensuite de ça, ben demain, la troisième journée, c'est là que vraiment on est prêt à commencer les travaux parlementaires qu'on pourrait qualifier de plus réguliers. Alors, on va tout de suite aller rejoindre Alexandre. Bonjour Alexandre.
Salut Mario.
Oui, donc Monsieur Legault qui en a peut-être comme ça pour environ une heure à détailler son action là.
Oui, absolument, ça va être long, puis on a attrapé le bon moment, je pense, là. Monsieur Legault qui a toujours fait sa priorité, vraiment l'éducation, là, on a vraiment pu entendre un pan important, donc, de son discours. Il a pointé aussi Bernard Drainville, là, verbalement, le nouveau ministre de l'Éducation, en disant qu'il y avait toute une tâche devant lui. On l'a pas beaucoup entendu dans les médias, hein, jusqu'à date, Mario, Monsieur Drainville.
Oh, ça va être intéressant. Il perd rien pour attendre. D'après moi, il va avoir amplement d'occasion de le demander, en entrevue. Bon, au début, c'est toujours pas si pire. Tu peux toujours dire, bon, ben là, je me familiarise avec les dossiers, je viens d'arriver, mais assez rapidement, on va attendre de lui des résultats. D'ailleurs, c'est une des choses qu'on dit, là, de la nouveauté, de la réalité d'un deuxième mandat pour la CAQ. C'est beaucoup plus difficile. Le premier mandat, bon, il y a des choses qui ont marché, mais il y a des choses qui ont moins marché. Puis en politique,
mais toujours,
blâmer l'ancien gouvernement, puis blâmer la pandémie. Parce que moi, t'avais deux gros motifs pour tout ce qui avait pas bien été, t'avais deux gros motifs à sortir là, tu sais, puis à présenter, puis que le public se disait, ah, c'est vrai, l'ancien gouvernement avait laissé la situation en santé ou en éducation dans un tel état, pauvres eux autres, ils ont pris ça de même. Et même chose avec la pandémie, ah, pauvre gouvernement, il a été pris qu'une pandémie, c'était pas facile, mais là
il y a de moins en moins d'excuses, hein, pour le gouvernement.
C'est un deuxième mandat.
C'est eux qui sont au pouvoir. Avant, comme tu le dis, c'est les libéraux. Puis ils ont été là tellement longtemps qu'on pouvait quand même là, pointer du doigt. Là, ah, ça a été comme ça pendant tellement d'années. Maintenant, c'est le changement. Faut reprendre ça. Mais là, après 4 ans, surtout, il y a des grosses transformations. Puis ils ont les coups des franges aussi avec tous les élus qu'ils ont. Pourront plus beaucoup se trouver d'excuses de ce côté-là. Je pense qu'en parlant de Bernard Drainville, là, lui, c'est un des ministres, comme il est nouveau, en plus, mais un nouveau réélu comme ça, là, dans un gouvernement, va falloir voir ce qu'il va faire en éducation. Là, c'est pas un ministère qu'il a occupé, là, dans le passé, là, si je ne m'abuse non plus. Alors, les attentes risquent d'être élevées, surtout que le milieu syndical en enseignement, c'est pas un des milieux qui se fait le plus discret, règle générale, quand vient le temps des revendications, là.
Alexandre, parlons de cette magistrale, majeure des services d'intervention de la police de Montréal, des services d'intervention tactique, qui font quelque chose qui je dirais pas qu'il est un standard, mais qui est habituel. Tu vas arrêter une personne que tu penses à risque, donc tu arrives en pleine nuit ou très tôt le matin, avant le lever du soleil, tu prends la personne par surprise pour aller finalement, essentiellement, tu sais, la saisir dans son lit. Et ils se présentent, même si c'est la police de Montréal, ils ont un mandat pour aller chercher quelqu'un qui est à Saint-Amable, qui est sur la rive sud de Montréal. Et voilà-t-il pas que par une lettre, là, entre un numéro de porte, le numéro de porte tiret A, ils se trompent de porte et débarquent chez un couple qui a aucun rapport avec l'histoire.
Ouais, l'adresse était le 1472A et non pas le 1472. C'est dans une résidence comme ça de la rue principale à Saint-Amable dans la nuit du 16 au 17 novembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est même pas un appartement, là. C'est vraiment un logement dans une maison là, qui est située au sous-sol, mais qui a son entrée indépendante et autre.
Et là, le locataire du logement là, qu'on recherchait pour différentes actions, armes à feu à Montréal, etc. Et c'est lui qu'on cherchait.
C'est lui qu'on cherchait. Le problème, c'est que lorsqu'on vise quelqu'un comme ça qui pourrait être potentiellement armé, c'est pas seulement les policiers du SPVM, Mario, qui se rendent là. C'est le groupe tactique d'intervention, ni plus ni moins, là, ce qu'on appelle le GTI, là, l'espèce de SWAT québécoise qu'on a, là, vraiment, là, comme dans les films. Et le pauvre couple qui était là, Marc-André Asselin, sa conjointe Sabrina Landry, dormait paisiblement. Et là, avant là, le lever du soleil, vers 4h45, un énorme bang, le bélier du GTI qui défonce leur porte d'entrée, une grenade assourdissante qui est balancée dans leur cuisine. Et là, les policiers rentrent lourdement armés. Il faut comprendre, ils sont en équipement tactique, ils ont des armes d'assaut, montent en haut. Monsieur Asselin, le résident, lui, a un coffre-fort avec des armes à feu enregistrées parce qu'il va dans un club de tir dans ses temps libres, ben pense qu'il se fait cambrioler, sort une arme à feu et ça aurait pu dégénérer, Mario, là, puisque lorsqu'il a lui-même pointé une arme à feu en direction des policiers, semble-t-il qu'il a assez vite compris qu'il faisait pas le poids face à plusieurs hommes armés d'armes à feu d'assaut et donc là, a fini par se faire passer les menottes et pendant une vingtaine de minutes, ça a été la confusion jusqu'à ce que finalement, il y ait quelqu'un qui vienne le mettre en état d'arrestation réellement, mais c'était pas le bon nom qu'on utilisait pour...
Et c'est là qu'ils ont commencé à se rendre compte qu'il y avait un problème. Ils ont dit « Monsieur un tel, vous êtes en état d'arrestation. » Puis il dit « Ouais, mais c'est pas moi. Moi, je suis pas ce nom-là. Je suis Marc-André Asselin. »
Moi, je suis pas Martin Brouillard, qui était le nom du fugitif qui était recherché à ce moment-là. Et donc, ça a quand même pris un bon 20 minutes durant lesquelles on comprend, même la conjointe, elle était nue, apeurée, dans un coin de la pièce. C'est vraiment là toute une histoire. Là. Puis on peut comprendre quand même les inquiétudes là, de ce couple-là. Non seulement qu'ils sont traumatisés, mais aussi, tu sais, il y a des dégâts matériels. Leur porte est complètement défoncée, ni plus ni moins. Ils ont donc porté plainte en déontologie, mais surtout certains membres manque d'organisation qu'ils dénoncent. On peut écouter M. Marc-André Asselin, justement, qui raconte là, ce qui l'inquiète dans cette aventure.
Quand il se fait livrer une pizza, là, c'est plate, mais elle débarque à son adresse. Il n'y a pas de confusion. Les colis d'Amazon de sa blonde, ils dropent à son adresse. Fait que, tu sais, de savoir que le barrant pizza à Saint-Amand est mieux organisé que la SPVM, ça, c'est épeurant un peu, t'sais.
Ouais. Là, il dit de pas avoir pris de décision. Est-ce qu'il va poursuivre? Parce que pour l'instant, le SPVM refuse de rembourser. Écoute, ils ont démoli sa porte. Ils refusent de rembourser parce qu'ils disent, ouais, là, finalement, on a regardé ça, puis ton adresse, pas si claire que ça. Et moi, je capote. Je pense, écoute, je ne comprends pas que la direction du SPVM, moi, je me serais attendu à ce qu'il ait un appel de la haute direction du SPVM d'excuses, peut-être même une visite à la maison, de l'offre de services psychologiques et autres en disant, écoutez, on est vraiment désolé de la méprise, on a fait une erreur. Troisièmement, évidemment, la réparation, la remise à niveau de toute la maison, de toute l'entrée, de la porte, etc., nettoyage des lieux aux frais du SPVM. Et là, ils font rien de ça, mais... Lui, il dit ne pas avoir pris la décision. Bon, on semble pas connaître tant que ça d'avocat. Mais, écoute, je sais pas. Il me semble qu'il y a là...
Qu'ils ont porté plainte en déontologie. C'est vraiment par rapport là, à la poursuite, à voir ce qu'ils envisagent. Parce que là, il y a des dégâts matériels, mais on parlait aussi des dégâts psychologiques. Là, Madame Landry, là, sa conjointe, a de la difficulté à dormir. Elle dit qu'elle sursaute au moindre bruit. Elle ne sent plus en sécurité chez elle. Moi-même, là, me faire réveiller pendant la nuit, là, ça
c'est par le toujours SWAT, quelque chose. Là, une grenade assourdissante, la porte défoncée, du monde qui arrive avec des armes d'assaut dans ta chambre à coucher, t'es tout nu, sérieusement.
C'est
8 secondes avant, tu dormais. Là. Puis je suppose que quand t'es un criminel, tu vis du crime, tu gagnes ta vie, t'as de l'argent, mais ton argent vient de la vente de drogue, tu dois quand même vivre avec, quelque part dans ta conscience, l'idée que... Bah, à un moment donné, là, tu sais, ça pourrait bien arriver.
Ça peut-être me faire pincer.
Ben, c'est ça. La police pourrait arriver à la porte, c'est pas impossible. Puis le jour que ça arrive, tu fais l'innocent devant la police, peut-être tu joues à l'idiot, mais en dedans de toi, là, voyons, tu sais exactement ce qui se passe. Là. Tu comprends précisément ce qui est en train de se passer. Mais quand t'as rien fait, c'est sûr que ton premier réflexe, c'est de penser que c'est un cambriolage, que c'est une invasion de domicile, que c'est des gens qui viennent te voler, t'agresser, t'attaquer, je sais pas quoi. Tu peux pas imaginer, tu peux pas te voir comme étant une cible de la police. T'as aucune raison de te voir comme étant une cible de la police.
Surtout que le propriétaire de l'endroit, je rappelle, a sorti une arme à feu lui-même. Il aurait pu se faire abattre, là. Littéralement, là, c'est des gens qui sont entraînés pour tirer et abattre quelqu'un qui serait dangereux et armé. C'est pour ça qu'ils étaient là sur place à l'origine. On n'envoyait pas le GTI pour le plaisir. C'est vraiment parce qu'il y avait quelqu'un qui était potentiellement armé sur les lieux. Alors là, en plus, on est encore chanceux de voir qu'il n'y ait pas eu là de blessés ou de morts dans cette histoire-là. C'est sûr que c'est complètement ahurissant. Là, tu sais, Mario, dans les dernières années, on a vu quelques cas de ce qu'on appelle ça du swatting. Hein, des gens en ligne qui, pour se venger de quelqu'un, vont appeler la police en disant qu'il y a un crime armé qui est en train de se produire quelque part et bang, la personne reçoit la visite comme ça du groupe d'intervention tactique chez elle. Habituellement, c'est quelque chose qui est provoqué par des gens qui ont une intention malfaisante là quand c'est non fondé. Mais là, que la police elle-même vienne et se trompe, elle n'a pas pris le temps de vérifier qu'il y avait un logement, c'est spécial.
La réponse de la police tient toujours la route dans le sens qu'ils disent l'erreur est humaine et même l'erreur épouvantable sur une adresse. Oui. C'est vrai, l'erreur est humaine, mais ce qui est pas explicable, là, mettons que tu as fait l'erreur, le peu d'effort pour disons l'attitude au moment où tu te rends compte de ton erreur, puis le peu d'effort pour la réparer, ça c'est une vraie honte.